Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme.
Et ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser.
But all that aside, we still have a problem, and it's a real problem. And the problem is this. Women are not making it to the top of any profession anywhere in the world.
Vous êtes pas féministe?
Non, je ne suis pas. J'ai jamais eu violette parce que, j'étais élevée par mon père, d'être un homme charmant, et après j'étais libre tout de suite. J'ai eu à dépendre d'un homme, ce qui change beaucoup la vie. Et toutes les relations que j'ai eues avec des hommes sont finies par... on finit par l'affection, quoi. Je me suis pratiquement rabrouillée avec un homme.
But anyway, since feminism was on Africa, I decided I would now call myself a happy Africa feminist.
Vous écoutez Radio Campus sur 88.3 FM et voici la chronique Le Sac à Main de l'Histoire. Le Sac à Main de l'Histoire. Bonjour, je suis Julie et je vous souhaite la bienvenue dans le deuxième numéro de la chronique Le Sac à Main de l'Histoire. Aujourd'hui dans mon sac, j'ai retrouvé un vieux billet de 500 francs. Devinez qui était représenté sur ce billet. Il s'agit bien évidemment de Marie Curie, une femme qui a fait progresser le monde de la science à pas de géant. Je vous raconte. Maria Salomea Stodowska, connue en France sous le nom de Marie Curie, est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, alors sous domination russe. Ses parents sont professeurs de physique et institutrices, et elle grandit dans une famille où l'égalité de l'éducation fille-garçon est importante. La jeune fille maîtrise d'ailleurs très tôt le polonais, le russe, l'allemand et un peu le français. Brillante bachelière à 16 ans et curieuse de tout, elle se voit confrontée à l'interdiction de l'université aux femmes en Pologne. Elle va donc suivre des cours dans une université clandestine polonaise, l'université volante. À cette époque, Maria excelle dans tous les domaines d'études. En 1891, la jeune fille a 24 ans et étudie à la Sorbonne pour son premier cours. Ce n'est pour elle que le début de plusieurs années de travail acharné dans des conditions d'inconfort inimaginables et un manque avéré de moyens. Mais la jeune étudiante, pauvre et studieuse, réalise son rêve et est reçue première en licence de physique et deuxième en licence de mathématiques. À 26 ans, Maria rencontre Pierre Curie qui l'aide à travailler sur sa thèse de doctorat portant sur l'étude des rayonnements produits par l'uranium et va lui fournir un lieu et de l'équipement pour ses recherches. Ils se marient peu de temps après. Un couloir, puis un hangar, les lieux de travail sont assez précaires. Ce qui ne l'empêche pas d'être reçue première, encore une fois, à l'agrégation en faveur de l'enseignement des jeunes filles dans la section mathématiques. Le couple réalise de nombreuses expériences et découvertes qui leur vaudront en 1903 l'obtention du prix Nobel à deux pour la découverte du radium. Ils partagent le prix avec Henri Becquerel. La même année, elle reçoit la médaille Davy qui récompense ses travaux exceptionnels dans le domaine de la chimie. En 1898, Marie Curie obtient le prix Génier de l'Académie de Sciences pour ses travaux sur les propriétés magnétiques des métaux. La même année, les époux Curie découvrent un nouvel élément qu'ils nomment le polonium, en référence à la Pologne, puis du radium après 2 ans d'études sur un minerai riche en uranium, la pentblende. En avril 1906, Pierre Curie décède percuté par une voiture à chevaux. Malgré tout, Marie poursuit les recherches seule et remplace son défunt époux au poste de professeur à la Sorbonne. C'est la première femme à enseigner dans cette université. En 1911, elle reçoit le prix Nobel de chimie pour la découverte du radium et du polonium et de leurs propriétés chimiques. La même année, lors du congrès de Solvay qui réunit les meilleurs scientifiques du monde, elle se retrouve être la seule femme entourée d'hommes. Toujours en 1911, elle commence à rencontrer de sérieux problèmes de santé, comme le bout des doigts brûlés ou des soucis rénaux. Elle ne remet pas en cause le radium. À partir de 1914, elle travaille à l'Institut du radium, qui est dédié à la recherche contre le cancer et à son traitement par radiothérapie. Cet institut est en collaboration avec l'Institut Pasteur. Depuis le décès de Pierre, Marie a mauvaise presse en France. Mais les critiques des journalistes cessent à la veille de la Première Guerre mondiale. La scientifique a mis à profit la découverte des rayons X par William Röntgen afin de créer et développer une vingtaine d'unités mobiles de radiologie appelées les petites Curie qui se déplacent sur tous les fronts. Elle prend le temps de former des aides radiologistes et avec l'une de ses filles, elle s'occupe ainsi des blessés en détectant les morceaux d'obus ou les balles, évitant ainsi aux soldats une amputation certaine. Durant toute la durée de la guerre, Marie Curie a placé ses travaux personnels au second plan afin d'aider son pays d'adoption. Dans les années 1920, le radium est très à la mode et utilisé pour les cures thermales ainsi que dans de nombreux produits du quotidien comme les crèmes de jour. C'est aussi à cette période que la scientifique rencontre de nouveau des problèmes de santé de plus en plus sévères. Elle suspecte le radium mais explique clairement à sa sœur dans une lettre qu'elle ne veut pas que cela s'ébruite afin qu'elle puisse continuer ses travaux sur la radioactivité. À partir de 1921, Marie Curie est reconnue sur le plan international. Bien que sa santé soit fragile et qu'elle ne soit pas adepte des bains de foule, elle accepte de se rendre aux États-Unis pour répondre à des interviews, prononcer des discours et va également à la Maison Blanche afin de pouvoir financer ses recherches. Grâce à une levée de fonds nationale organisée par la journaliste américaine Mary Mattingly Meloney, elle peut s'acheter un premier gramme de radium qui coûte la modique somme de 100 000 dollars. Marie en reçoit un second gramme qui lui est offert par les femmes américaines qu'elle lègue par la suite à un laboratoire de Varsovie. Mais la plus grande scientifique de son temps décède en 1934 des suites d'une leucémie causée par une trop grande exposition aux radiations. Elle sera la première femme à rentrer au Panthéon en 1995 pour ses travaux remarquables. En guise de conclusion, je me dois de préciser que Marie Curie n'était pas féministe dans l'âme, même si elle a contribué à améliorer la situation des femmes. Elle était plutôt positiviste, car pour elle, la science était seule source de progrès. Et du fait de ses travaux sur la radioactivité, Marie Curie résout de nombreux mystères concernant l'atome et aide ainsi à la création du premier traitement du cancer par radiothérapie. En avance sur son temps, elle pensait également que le potentiel intellectuel des femmes valait largement celui des hommes, du moins en science. Je vous remercie. Les sources utilisées pour écrire cette chronique ont été deux biographies, la première étant écrite par Janine Trottereau aux éditions Gallimard, écrite en 2011, et la seconde par Laurent Lemire, écrite aux éditions Perrin en 2001. Je vous remercie, au revoir.
Für dich und mich im All entsteht.